Bonsoir. Plusieurs affrontements entre pygmées et bantous ont été enregistrés dans la province du Tanganyika. Le dernier cas a été signalé il y a une semaine où 16 personnes ont été tuées à Kabalo. Entre-temps, à Kabalo Centre, environ 3000 ménages de déplacés, dont les villages ont pour la plupart été incendiés, nécessitent l'assistance humanitaire. La cohabitation difficile entre les deux communautés serait à la base de ces affrontements. Quelle analyse faire de ces affrontements récurrents entre les deux communautés et que faire pour y remédier? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois Monsieur le gouverneur Richard Ngoï Kitangala. Bonsoir, Monsieur le gouverneur.
Bonsoir Alain Hirung.
Merci Monsieur le gouverneur, vous êtes gouverneur de la province du Tanganyika. Merci d'avoir accepté notre invitation. Modeste Kabazi, bonsoir. Modeste Kabazi. Voilà, Modeste Kabazi va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, il est porte-parole de la société civile du Tanganyika. Joseph Kongolo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste politique. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Depuis quelque temps, des affrontements récurrents sont signalés entre pygmées et bantous dans la province du Tanganyika, causant beaucoup de pertes tant en vies humaines que matérielles. Rendons-nous à Kabalo, où le ministre provincial de l'Intérieur a clôturé il y a une semaine une mission mixte MONUSCO gouvernement provincial du Tanganyika pour réconforter les 3000 ménages de déplacés et d'autres familles de dizaines de victimes. François-Xavier Mibé, hors reportage.
C'est un corps sans vie d'un homme gisant au centre-ville qui a lancé les défis au passage du cortège ramenant le ministre provincial de l'Intérieur à l'aérodrome de Kabalo, le ministre titonné Yumba Kamona.
On aura à tenir un forum qui va regrouper les éléments, les toits, les notables de la province pour trouver une solution durable.
L'ambassadeur du territoire de Kabalo, Hubert Kanzavumba, situe l'origine des nouvelles hostilités au refus d'une femme vendeuse de chenilles partie du village Monde, de payer après-vente la redevance coutumière au chef traditionnel du village voisin de Kabumba, un village bantou. Les discussions engagées autour de la question ont dégénéré en conflit ouvert. Bilan, 3 personnes tuées à la flèche. La milice bantou, connue sous le nom d'éléments dans la zone, s'est organisée à son tour pour venger ses morts. Nouveau bilan, 20 morts, 15 villages brûlés et environ 3000 ménages jetés dans la rue. La voix des minorités indigènes, une ONG locale, active dans la défense des droits humains, remonte la genèse avec le premier refus des populations autochtones pygmées à rallier le mouvement des Bakatakatanga en 2012 dans ce qui a été appelé le triangle de la mort. Le coordonnateur de l'ONG, Georges Mbouyou.
Les chefs coutumiers, ils ne veulent pas attendre qu'on leur dise que tous les êtres humains naissent libres, ils sont égaux en dignité et en droit. Ils disent qu'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de dignité d'homme, il faudrait que ce soit eux seulement les Bantous qui ont des dignités et qui ont des droits.
C'est dans ce cadre de recherche d'une solution durable à ces conflits que la MONUSCO a initié et appuyé la logistique pour réaliser le projet de Barza, une sorte de forum au niveau de la base qui regroupe les acteurs Louba et populations autochtones pygmées en exerçant les activités de cohabitation pacifique dans les villages en proie au conflit en territoire des Banono. Et depuis septembre 2015, 5 Barza sont opérationnels. Et Manono observait une accalmie. Mais dans les villages touchés par de nouveaux conflits interethniques, la situation reste tendue. Pour les dialogues entre Congolais, de Kalemi, François-Xavier Mibé, Radio Kapi.
Merci François-Xavier Mibé. Monsieur le gouverneur Richard Ngoï Kitangala, vous êtes gouverneur de la province du Tanganyika. Quelles sont les véritables causes de ces conflits récurrents entre Bantou et Pygmée, monsieur le gouverneur?
Merci, M. Alain Hirung, pour la question. Je pense que l'analyse que nous devons faire de cette situation doit être comprise de cette façon. Les pygmées des années 60, 70, 80, ce ne sont plus des pygmées d'aujourd'hui. La plupart des jeunes pygmées vers les années 90, 2000, ont été amenés dans des écoles primaires, secondaires, et dans des universités par des églises. Dans la province du Tanganyika, par exemple, à leur district, c'était plus l'église luthérienne qui avait amené beaucoup d'enfants pygmées dans des écoles. Donc, nous avons au jour d'aujourd'hui des pygmées diplômés, gradués et même des licenciés. Disons des pygmées intellectuels qui participent souvent dans des séminaires de formation organisés par leur réseau au niveau national et international, où ils sont informés et sensibilisés à revendiquer maintenant leurs droits. C'est ainsi qu'ils ont même créé des ONG. Je pense que Mib venait de citer tout à l'heure là Georges Mbouyou. Monsieur Georges Mbouyou est en train d'animer une ONG qui s'appelle CMI, Voix des minorités indigènes, très active dans les milieux des pygmées. Ces ONG sont la plupart d'entre elles animées par les peuples autochtones eux-mêmes et qui se sont donné comme objectif de sensibiliser leurs frères à revendiquer leurs droits. Donc, on sent de plus en plus, Monsieur Alain, qu'il y a une certaine émancipation chez les peuples autochtones. Et quand vous causez avec eux, ils évoquent certains articles de la Constitution, tels que l'article 11, qui stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils évoquent même plusieurs articles de la Constitution. Donc, vous allez comprendre que les Pygmées, pour le moment, ne veulent plus de la domination de peuples bantous. Ils veulent s'assumer. C'est ainsi qu'ils revendiquent beaucoup de choses à la fois. Voilà, c'est comme ça que moi, j'analyse cette situation. Donc, il y a une certaine émancipation de la part des Pygmées qui sont sensibilisés par les leurs, qui ont étudié. Chez moi, dans mon gouvernement, par exemple, j'ai leur frère qui a étudié, qui était même en Suisse, qui travaille avec moi, qui écrit et qui parle très bien français.
Monsieur le gouverneur.
Alors, tous ces gens-là... Oui, allô?
Monsieur le gouverneur, vous dites que les Pygmées se sont émancipés, qu'ils ont évolué, que maintenant, ils peuvent revendiquer leurs droits, mais vous dites qu'ils revendiquent beaucoup de choses à la fois. Est-ce qu'ils le font mal, ces revendications?
Oui, c'est ça, ils revendiquent, mais quand on revendique, on ne peut pas en même temps se faire justice. Ils revendiquent, entre autres, la suppression des redevances coutumières, par exemple. Ce n'est pas un intérêt qu'on peut leur accorder, parce que les chefs coutumiers de ces milieux dans lesquels ils habitent sont habitués à ces redevances. Ils revendiquent, par exemple, la récupération de leurs terres en tant que premiers occupants. Il parle de l'égalité, comme je le dis en évoquant l'article 11 de la Constitution. Il réclame qu'on leur donne des portions de terre propres à eux et qu'ils soient nommés à des postes de responsabilité. Des chefs coutumiers, des chefs de groupement, des chefs secteurs et même des administrateurs du territoire. Et ils vont même très loin en réclamant les mariages avec les femmes bantous. Car d'après eux, les bantous prennent leurs filles, mettent au monde avec elles, mais refusent de récupérer les enfants pour ne pas être sujet de moquerie au village.
Alors, monsieur...
Ils dénoncent aussi... Oui, allô,
monsieur le gouverneur, merci pour tous ces éléments que vous avez énumérés en termes de revendications. Je vous donnerai la parole pour que vous puissiez y revenir. Mais est-ce que le problème aussi ne se trouverait pas du côté des Bantous qui continuent à considérer les Pygmées comme des sous-hommes, comme des marginalisés?
Oui, c'est ça, ça va prendre un peu de temps. Nous avons vécu toujours avec les Pygmées, habitués à eux, à les voir dans les champs des Bantous en train de travailler, en train de transporter les fardeaux. Tout d'un coup, les Pygmées commencent à réclamer leurs droits. Ça demande une sensibilisation de part et d'autre. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi que les Bantous comprennent que depuis très longtemps, nous avons utilisé ces Pygmées à des travaux lourds, à des travaux champêtres, même à des travaux halieutiques. Maintenant, ça a changé. Il faudrait peut-être qu'on puisse trouver les justes mesures. Donc, c'est cela qu'il faudrait. Mais ça va prendre un peu de temps. Ça ne peut pas aller d'une façon automatique. C'est ça le retrait de la population bantou, parce que eux, ils disent, on a toujours vécu avec les Pygmées, mais on ne comprend pas l'activisme des Pygmées.
Monsieur le gouverneur, nous allons prendre pour vous cette réflexion qui nous vient d'un auditeur de Lubumbashi.
Patrick Mbouli Kassama, depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. J'ai comme l'impression que le gouvernement ne s'occupe que du Nord et Sud Kivu, en oubliant certains coins du pays, notamment cette question des Bantous et Pygmées qui prend des proportions avec un cadre. et le gouvernement a tous les moyens pour imposer la paix et son autorité sur toute l'étendue du territoire national. Mais nous constatons avec beaucoup de regret l'échec de l'action du gouvernement sur l'insécurité dans plusieurs provinces du pays. Je pense que le gouvernement devra redéfinir sa politique sur la gestion de l'État. Car que ce soit les groupes armés, les conflits tribaux ethniques, rien ne peut empêcher le gouvernement d'imposer son autorité, au moins que ce dernier soit complaisant.
Monsieur le gouverneur, ce conflit entre Pygmées et Bantous, vous l'avez trouvé en arrivant à la tête de la province du Tanganyika. Est-ce que le gouvernement central a mal géré cette question avant vous?
Non, il y a eu beaucoup de gens. D'ailleurs, ça a commencé à Manono depuis 2013. Il y a eu des affrontements sanglants entre les Pygmées et les Bantous. Le gouvernement était intervenu pour amener la paix. Il y avait eu même des parts et d'autres, leurs leaders qui étaient arrêtés et acheminés à Lubumbashi. C'est seulement maintenant qu'ils viennent d'être libérés et retournés. D'ailleurs, ils sont encore ici chez moi à Kalemie. Je suis en train de voir avec la MONUSCO comment on peut les retourner à Manono dans leurs villages respectifs.
Merci,
le gouvernement avait bien travaillé, très très bien travaillé, la calmie était revue.
Merci, monsieur le gouverneur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Modeste Kabazi, bonsoir. Est-ce que vous êtes en ligne?
Je suis en ligne et je suis en train de vous dire bonsoir une fois de plus, Alain.
Merci beaucoup. Vous êtes porte-parole de la société civile du Tanganyika. Vous avez suivi, monsieur le gouverneur Richard Ngoyi Kitangala, qui a donné ce qu'il considère, lui, comme étant les causes de ce conflit entre Bantou et Pygmée. Pour vous, est-ce que vous partagez ces mêmes causes ou vous en avez d'autres?
Oui, en partie, je partage les mêmes points de vue avec le seul gouverneur, mais je vous dis.
Modeste Kabazi?
Alors, c'est là où je me dis peut-être qu'il avait fait un mauvais état des lieux de la situation, ou bien qu'il a fait mal ou qu'il n'a pas du tout fait, parce qu'il faudra remonter aux causes qui sont bien lointaines pour savoir pourquoi et quand les choses ont commencé. Parce qu'il y a une certaine période qu'on a vécu ici ensemble, c'était la paix totale entre les deux communautés. Mais du jour au lendemain, ces deux communautés se sont mises à se battre. Alors, s'ils se sont battus, il faudra se poser la question de savoir pourquoi se battent-ils? Est-ce qu'il y a seulement cette raison pour dire qu'il y a l'émancipation? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons profondes? Et c'est là, après avoir fait l'analyse exacte de ce point de vue-là, qu'on pourra savoir qu'est-ce qu'il y a dans le fond. Est-ce que c'est seulement le mariage? Est-ce que c'est seulement l'aspect de l'émancipation? Moi, je pense par exemple que ce sont des petits problèmes, dans la mesure où ça ne devait pas faire l'objet de problèmes, parce qu'on ne peut pas prendre les filles pour leur dire, écoutez, allez chez les Pygmées, allez vous faire marier, ou bien, écoutez, il y a un marché pour les filles pour se marier. Non. Alors, le problème se pose tout à fait ailleurs. Aujourd'hui, le problème se pose au niveau, le problème notamment sur l'économie, parce que ces peuples-là se trouvent aujourd'hui, ils se disent, écoutez, nous devons avoir la même économie que celle de Bantou. Bon, il est certes bien vrai, maintenant les Pygmées ne vivent plus que pas dans la forêt comme ça a été à l'époque ancienne, ils sont beaucoup plus proches des populations bantoues. Alors, ils estiment qu'à ce jour, il faudra qu'ils arrivent aussi à vivre décemment comme les autres, avoir des maisons, avoir une certaine instruction, comme l'a dit le gouverneur, qui a un de ses ministres qui est proche de lui. Alors, c'est tout ça l'ensemble de tous les problèmes qui fait que aujourd'hui, ce problème se pose avec acuité. Il y a aussi un autre problème. Donc, l'autre problème, c'est, là, je voudrais, parce que je sais que certains amis qui sont ceux de la société civile ne conviendront pas totalement avec moi, c'est le message, la manière dont on amène le message à ce peuple-là, qui fait qu'on arrive à ne pas se comprendre correctement. Moi, je pense que le message qui devrait leur être apporté, ça ne devrait pas être le message pour dire, écoutez, dès aujourd'hui, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il n'y en a pas. Moi, je pense qu'on leur apprendrait leurs droits tranquillement, d'une manière très posée, pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire et ce qui ne leur est pas permis de faire. Prenons le cas, par exemple, qui ne doit pas payer les crédits, ce qu'on appelle aussi le droit de terre. Eh bien, en acceptant, par exemple, de leur dire de ne pas payer le droit de terre, eh bien, pour compter 2, il faudra commencer par compter 1. Ce qui fait que si on concède à ceux qui ne payent pas le droit de faire, demain ils diront qu'on ne paye pas les taxes, on ne paye pas les impôts. Donc, c'est question de leur apprendre les raisons qui poussent à ce que l'on paye ce droit de terre, les raisons qui poussent à ce que l'on paye les taxes et les impôts. Parce que le droit de terre n'est pas seulement payé par les pygmées, mais ils sont aussi payés par les bantous. Et là, ce sont des problèmes pour lesquels il faudra y aller d'une manière simple, mais avec beaucoup de tact pour faire comprendre à nos frères pygmées, voilà les raisons qui font que vous payez tout cela. Donc, quand le message est mal porté auprès de ces communautés, eh bien, ça frustre. Alors, les gens disent, moi, écoutez, nous n'allons plus payer. Et ça pose problème aussi du côté des bantous qui disent, écoutez, ça ne va pas. Donc, on ne peut pas accepter que du jour au lendemain, alors que toute la population paye les crédits, on n'arrive pas à ne pas le faire.
Modeste Kabelbi.
Oui.
Voilà, il y a plusieurs affrontements qui ont été enregistrés entre Bantou et Pygmée. Nous le disions, les derniers affrontements ont fait plus d'une dizaine de morts. Est-ce que vous avez un bilan au niveau de la société civile de la province du Tanganyika à ce jour?
Le bilan que nous avons, à ce que nous puissions le savoir, d'après les chiffres qui nous ont été communiqués par le coordinateur de la société civile à Kabale, il est bien clair que c'est 16 morts, dont 16 morts dans l'ensemble, et 4 morts du côté des pygmées, et le reste du côté de Bantou, bien sûr, a compris la famille du chef Mboul.
Alors,
voilà le bilan exact.
Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont posé la question et au moment opportun, j'y reviendrai. Est-ce que derrière ces affrontements, il y aurait une politisation, une main noire qui tirerait les ficelles entre ces deux communautés?
Je ne pense pas qu'il y ait une main noire. Je reviens à dire que c'est le message qui a été porté. Mais quand il est mal porté, eh bien, il a toutes ces conséquences-là. Je voudrais dire que si tous les acteurs impliqués dans ce conflit-là parlent le même langage, eh bien nous arriverons à une solution qui soit beaucoup plus durable. Et si le gouverneur y va avec un langage, la société civile y va avec un langage, les députés y vont avec un autre langage, ce langage-là qui n'est pas concerté, nous arrivons à un moment donné à ne pas trouver
Merci. Le
même mot auprès de ces communautés-là.
Merci,
Et
Maurice. Terminez votre idée, s'il vous plaît. Terminez votre idée.
Oui, en fait, c'est ce qui pose le problème. Je pense que ce message que nous allons, donc, nous le portons mal.
Merci,
Modeste. Nous le portons mal parce que ce n'est pas un message concerté.
Merci,
Modeste. Donc, il y a la société civile qui pense autrement, il y a les gouvernants qui pensent de leur manière.
Et donc il faut un message concerté. Je vous redonne la parole tout à l'heure pour plus de détails à ce sujet. Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique. Vous avez suivi Monsieur le gouverneur Richard Ngoyi Kitangala et Modeste Kabazi. Comment vous analysez ces affrontements récurrents entre ces deux communautés?
Bien, merci beaucoup Alain pour m'avoir associé à ce débat. Je salue le gouverneur Ngoyi Kitanga. Je salue aussi Monsieur Modeste Kabazi de l'autre côté. Tanganyika, je voudrais dire tout de suite que le problème qui se pose entre les Bantous et les Pygmées dans le précaré, Nyuzu, Kabalo et Manono, par là, je crois qu'il y a un problème sérieux dans sous-bassement culturel, un problème sérieux de pauvreté, c'est-à-dire d'une précarité sociale et économique, et c'est ce problème qui est à la base d'une nouvelle radicalité, laquelle radicalité, mal gérée, se débouche, n'est-ce pas, sous les conflits violents. Donc, pour l'homme d'ordre culturel, je crois que le gouverneur a essayé de donner quelques éléments, c'est-à-dire que les Pygmées, c'est une population qui a un mode de vie, qui doit être respecté. Malheureusement, ce mot de vie n'est pas respecté.
Ils étaient nomades et ils se sont sédentarisés aujourd'hui.
Ils se sont sédentarisés et le rythme, n'est-ce pas, de modernisation de leur vie devient trop accéléré. Le gouverneur l'a dit tout à l'heure, qu'il y a des gens qui ont étudié, qui ont accès à l'école et tout ça. Donc le rythme devient très rapide, n'est-ce pas, de modernisation de la vie, de la conception, deviennent trop accélérés de telle manière que les Bantous sur place ne supportent pas, n'est-ce pas, de lâcher si facilement, n'est-ce pas, des gens qu'ils ont considérés comme des sous-hommes, ça il faut le dire.
À la limite comme des esclaves.
Comme des esclaves.
Qui se sont affranchis.
Exactement. Alors, ils ont compris qu'ils avaient des droits et des devoirs qui ne sont pas respectés par leurs amis Bantous. Voyez-vous ? Et avec l'accès à la civilisation, bien sûr, c'est-à-dire à la civilisation moderne, n'est-ce pas ? Et le rythme, n'est-ce pas, d'émancipation devient trop rapide et que les autres ne savent pas respecter. Deuxième élément. Le deuxième élément, c'est cette expression des divergences culturelles. Cette expression de divergence, n'est-ce pas ? Fondamentale d'ordre social que les Bantous ne savent pas supporter. Et en ce moment-là, ils ne savent pas préserver la cohésion nationale. Il faut accepter l'autre dans sa différence. C'est justement cet autre qui commence, n'est-ce pas, à s'ouvrir à la civilisation moderne, qu'on ne voudrait pas accepter, voyez-vous ? Et c'est ce qui donne lieu, n'est-ce pas, si vous voulez bien, à cette rupture de la cohésion sociale, au niveau tout simplement de leur cadre de vie. Troisième élément... Le troisième élément, ce sont des querelles mal éteintes. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'autorité tout à l'heure, ce sont des effets de nonce, n'est-ce pas ? On annonce qu'on a fait quelque chose, ce sont des querelles qui sont très mal éteintes. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mettre dans la longueur du temps, n'est-ce pas ? Ni dans la durabilité des solutions qui ont été préconisées. On sent très vite que ce sont des choses faites à la hâte, et au bout d'un certain temps, ce sont les mêmes querelles qui reviennent, n'est-ce pas, à travers les mêmes problèmes. Donc ce sont des querelles qui ont été très mal éteintes, donc des solutions très fragiles et vulgaires et superficielles.
Éphémères, alors.
Éphémères, exactement. Et au bout d'un certain temps, les mêmes problèmes ressurgissent, les mêmes violences. Quatrième élément que je voudrais dire, c'est que c'est un problème d'autorité de l'État. C'est-à-dire que la prise en charge de ce conflit localement n'est pas durable, n'est pas... n'intéresse pas beaucoup, d'ailleurs, même M. Kabasi vient de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire que l'État ne prend pas au sérieux le processus, n'est-ce pas, de résolution de ce conflit local, et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, de temps en temps, les mêmes querelles qui reviennent. Cinquième élément, je termine par là, c'est la politisation des victimes. Je ne dis pas qu'il y a une main noire, mais quand les victimes commencent à accéder à la nouvelle connaissance, ils commencent à se connaître et connaître l'autre, ils commencent à se comparer à l'autre, n'est-ce pas ? Ils commencent à accéder à la constitution, à des droits et tout ça, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique interne, à l'intérieur d'ailleurs des pygmées, qui ouvre, n'est-ce pas, la civilisation et qui découvre les droits et les devoirs, et en ce moment-là, ça leur donne, n'est-ce pas, le temps, n'est-ce pas, de revendiquer, n'est-ce pas, leurs droits. Donc je crois qu'il y a une vision plus globale de la chose pour pouvoir arriver, n'est-ce pas, à stabiliser la situation et à résoudre ce conflit.
Il y a cet auditeur de Kinshasa, Eric Cote, qui dit, je pense que les conflits intercommunautaires que nous connaissons dans la société congolaise sont la conséquence logique du manque de la politique de la nation entre les populations, car les citoyens congolais ne se supportent pas. Il appartient au pouvoir public de mettre en place une bonne politique ancrée sur cet aspect, même si les colons nous ont légué un État sans nation au sens du droit.
En fait, je crois qu'il a complètement raison, c'est un bon raisonnement. Je sais que aujourd'hui, c'est une société réputée conflictuelle, la République démocratique du Congo. Il suffit d'aller dans les tribunaux, vous allez voir que ce sont des parcelles, ce sont des petits conflits, ainsi de suite. C'est une société réputée conflictuelle. Et je crois qu'une des priorités, n'est-ce pas, de l'autorité de l'État, c'est d'élaborer des politiques stables, n'est-ce pas, et de former des acteurs non étatiques capables, n'est-ce pas, de résoudre les conflits de manière permanente, de gérer les conflits et les résoudre de manière permanente. Or, malheureusement, c'est autre chose qui nous intéresse, n'est-ce pas, et assurer la cohésion entre les peuples, n'est-ce pas, devient la cinquième roue pratiquement du véhicule. Donc, je donne complètement raison à cet ami qui a fait cette réflexion, et je pense que le gouvernement aujourd'hui doit ouvrir de nouveaux chantiers dans la construction des politiques de manière à assurer la cohésion entre différents peuples et entre différentes tribus aussi.
Monsieur le gouverneur Richard Ngoyi Kitangala, il y a plusieurs solutions qui ont été tentées pour remédier à cette question, mais qui ont échoué. Tout à l'heure, Joseph Kongolo parlait des querelles mal éteintes. Pourquoi, selon vous, ces solutions préconisées avant n'ont pas réussi? Monsieur le gouverneur? Voilà, je crois que nous venons de perdre M. le gouverneur Richard Ngoï Kitangala. Le temps que la réalisation puisse le retrouver, Modeste Kabazi, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Je suis à Kulimu Chevariste depuis Bukavu, province du sud Kivu. Ces affrontements récurrents entre les communautés bantoues et pygmées, à l'instar de ceux vécus ça et là sur le territoire national, ne sont que résultantes de l'absence criante du symbole de l'autorité de l'État, car la proximité avec la police imprimerait à un degré près le caractère pacifique, facteur d'une cohabitation intercommunautaire apaisée au sein des communautés. Ainsi, pouvons-nous savoir depuis que ce conflit est en cours, quelles sont les mesures sécuritaires que le gouvernement congolais peut avoir envisagées pour la contrer lorsque les déplacés qu'ils devraient obligatoirement assister sont encore abandonnés à leur triste sort?
Modeste Kabazi, y a-t-il des mesures qui ont été prises pour soulager la vie des déplacés? Modeste Kabazi? Allô, Modeste Kabazi? Voilà, décidément, nous venons également de le perdre. Je signale qu'il y a eu une très forte pluie sur Kinshasa et qu'il y a certainement des problèmes avec les réseaux. Joseph Kongolo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient une fois de plus de Bukavu Sud Kivu.
Franklin Matumaini, je vous appelle depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu. La politique des pays africains depuis les indépendances est celle où les politiques aériennes entretiennent des milices et groupes armés pour se faire un pouvoir, et depuis l'indépendance, la RDC n'a pas fait exception, car plusieurs personnalités célèbres aujourd'hui sur la scène politique le sont grâce à leurs groupes armés, et tant que les responsables des groupes armés seront, au lieu d'autres pays, seront récompensés au nom de la paix, ce genre de groupes seront toujours actifs et en grand nombre, surtout à ce jour où l'incertitude plane sur l'avenir politique du pays. Les efforts de ce et la PNC ne peuvent à jamais venir à bout de ces groupes, de ces mouvements, non pas parce qu'ils n'ont pas la capacité, mais plutôt parce que les ordres et les moyens ne peuvent à jamais leur être donnés. On est là dans un contexte où l'État insécurise l'État.
Joseph Kongolo.
Bien, je suis d'accord avec M. Matumaini sur son analyse, mais je crois que les cas des pygmées et des bantous, n'est-ce pas, au niveau de News ou Kabalo dans ce triangle, je crois qu'il n'y a pas un problème de politisation ou encore un problème de milices entretenues par certains milieux politiques. C'est un coin que je connais personnellement, tout ça. Je crois que ici il y a un problème de cohabitation, il y a un problème culturel, un problème de pauvreté, un problème d'absence de l'État pour réguler la vie des citoyens, n'est-ce pas, sur le plan local. Et je crois que, comme nous l'avions dit au début, je crois que l'État doit instaurer des mécanismes stables, permanents, de manière à gérer les conflits, parce que ce sont ces conflits, à travers ces conflits, ce sont des fissures qui donnent lieu, n'est-ce pas, à la résurgence des milices, n'est-ce pas, des milices, et qui risquent, n'est-ce pas, de mettre en danger pratiquement, ou encore mettre en insécurité l'ensemble des États. Et je voudrais dire que Nyunzu Kabalo, c'est un coin qui était très riche, n'est-ce pas, en produits agricoles, c'est-à-dire c'est un coin éminemment agricole.
Ingrigné.
Oui, vraiment ingrigné, oui, particulièrement pour le Kasaï oriental, hein, où il y avait des grands messieurs qui venaient faire des champs, pratiquement à Nyunzu, à Kabalo et tout ce coin. Alors, moi je crois que aujourd'hui Nyunzu n'est plus, ne répond plus, n'est-ce pas, à sa vocation agricole à cause de cette insécurité. Je pense plutôt que le gouvernement, ou le gouvernement local d'ailleurs, le gouverneur, doit mettre sur pied des mécanismes permanents de manière, n'est-ce pas, à faciliter la cohabitation et la convivialité entre les deux groupes tribaux.
Monsieur le gouverneur Richard Ngoï Kitangala, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Merci, monsieur le gouverneur. Avant que votre ligne ne se coupe, je vous posais la question de savoir, il y a plusieurs solutions qui ont été tentées sans succès. On se rappelle, par exemple, que le 10 septembre dernier, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab, était sur place et a appelé les deux communautés à la paix, sans succès. Il y a la société civile, le 8 août, qui a distribué des vélos pour le comité de pacification de conflit ethnique sans succès. Il y a même une solution judiciaire qui a été trouvée où il y a des pygmées, des bantous qui avaient été intentés en justice pour génocide et crimes contre l'humanité et tout ça sans succès. Pour vous, pourquoi, selon vous, toutes ces solutions préconisées ont échoué?
Je voulais tout simplement vous dire, Alain Hiron, que la solution la plus efficace et la plus durable, c'est celle de retourner la population aux travaux champêtres. C'est comme M. Kongolo venait de le dire, quand vous visitez ces milieux, la pauvreté est vraiment criante. Les éléments déclencheurs de ces affrontements sur l'axe Nyunzu, Manono et Kabalo, Nzovo, c'est seulement des petites choses. Vous comprendrez que les gens s'étaient tirés entre eux à cause des rats, tout simplement. Des rats ici. Le chef qui dit, Pygmé, vous avez attrapé deux rats, il faudrait m'en donner un pour que je puisse manger. Et du côté d'Nzovo, dans le village monde, c'était les chenilles. Et c'est parti de là, ça a éclaté, et puis ça continue dans d'autres villages. Et donc, le grand problème, c'est la pauvreté. Nous devons tout faire pour éradiquer la pauvreté. Il faudrait retourner la population aux travaux champêtres. Et c'est ça la solution la plus durable. On peut donner, on peut parler. Vous trouverez dans des villages, les jeunes gens, à longueur des journées, sont en train de prendre l'alcool, sont en train de jouer aux damis, et quand ils se sont enivrés, ils commencent à des disputes inutiles, et oui, c'est le combat qui commence. Donc, il faudrait vraiment sensibiliser davantage la population des femmes et d'autres, d'abord à une cohabitation pacifique, parce qu'ils sont toujours restés des années et des années ensemble, sans problème. De deux, il faudrait remettre la population aux travaux champêtres. De trois, il faudrait initier des actions de développement, d'autres actions de développement. Par contre, par exemple, ouvrir des routes de dessertes agricoles par la méthode IMO, où la population elle-même arrangerait la route et qu'on donnerait un peu d'argent à ceux qui vont travailler sur la route. On peut aussi les organiser en association, en coopérative agricole, et les appuyer avec les outils aratoires, les semences, et même les appuyer dans des activités génératrices de revenus. Comme ça, les pygmées vont cultiver dans leur champ, ils vont produire, ils vont manger et ils vont vendre. Les bantous aussi vont cultiver, ils vont produire, ils vont manger et ils vont vendre.
Mais monsieur le gouverneur,
le grand problème ici, c'est parce que... Allô?
Monsieur le gouverneur, vous avez suivi tout ça, c'est bien, mais vous avez suivi Modeste Kabazi qui insistait sur le fait qu'il y a également un problème de communication. On s'adresserait mal aux pygmées qui ne comprennent pas bien le message. Il faudrait aussi travailler de ce côté-là.
Bon, moi je ne crois pas à tout cela. Les messages pour la cohabitation pacifique, ça ne demande pas toute une littérature. Quand vous arrivez dans le village, moi j'étais dans ce village moi-même. Je suis allé de Nyunzu jusqu'à Manono, je suis passé dans tous ces villages. J'ai parlé avec eux, j'ai même transporté les leaders de pygmées, je les ai amenés à Manono, je les ai retournés et ils ont sensibilisé leurs frères. Moi je pense que c'est le travail. C'est le travail, il faudrait retourner toutes ces communautés-là au travail. Ils doivent cultiver, ils doivent produire, ils doivent manger et ils doivent vendre pour avoir un peu d'argent. La pauvreté est vraiment criante. Les pygmées ne cultivent pas. Chaque jour, ils sont dans les champs des bantous. Et c'est ça leur revendication. Ils disent, nous cultivons dans les champs des bantous, mais on nous paye en monnaie de singe. Parfois, on nous donne une culotte de chiqueté. Parfois, on nous donne tout simplement un verre d'alcool. Vous voyez les revendications? Moi, je leur ai dit, alors, au lieu d'aller travailler dans les champs de bambous, moi, je vais vous donner les outils aratoires parce que j'en ai. Je vais vous donner la semence. Je vais déployer les ingénieurs agronomes que j'ai. Ils vont vous former. Ils vont vous encadrer.
Merci.
Trois mois après, vous aurez des sacs de maïs.
Merci, monsieur le
gouverneur. Parce qu'on peut aussi former sur l'État et on peut faire passer les messages tout en encadrant la population sur le terrain.
Merci, monsieur
le
gouverneur.
Ça ne demande pas beaucoup de messages, de littérature, tout ça, ainsi de suite.
Merci, monsieur.
J'avais posé très peu de temps avec eux, ils avaient compris, et quand je les avais ramenés, ils avaient percuté le même message dans la population.
Et ils affichent. Merci, monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur.
Ça ne demande pas beaucoup de choses.
Merci, monsieur le gouverneur. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Modeste Kabasi, est-ce que vous êtes de nouveau en ligne?
On est en ligne, merci Alain.
Vous avez suivi la série de solutions proposées par M. le gouverneur Richard Ngoï Kitangala. À long terme, il faut retourner la population au travail. À très court terme, il faudrait des actions de développement, ouvrir des routes et des dessertes agricoles, associer la population à ces travaux. Mais il y a également Théophile Bouyana, coordonnateur de l'ONG d'ICPAUP, qui propose ces solutions. Il dit qu'il faut l'organisation d'un forum au niveau provincial qui mettra autour d'une table les deux communautés avec l'assistance de toutes les forces vives de la province, l'adoption d'un plan de développement pouvant alléger la misère des pygmées, sensibilisation auprès des bantous pour qu'ils comprennent que les pygmées sont des êtres à part entière et ont des droits en tant qu'humains, sensibilisation auprès des pygmées pour qu'ils sachent, qu'ils connaissent les canaux légaux à utiliser en cas de revendication. Modeste Kabasi, quelles sont les solutions pour vous?
Bien, je conviens à toutes ces solutions-là. Et tout à fait d'accord qu'il faudra y faire tout cela, le forum. Mais le forum, d'abord, il faut le savoir avec qui. Parce que si nous faisons un forum avec un pygmée parce qu'il est évolué, parce qu'il est à Kinshasa, est-ce que ce forum aura un impact sur les pygmées qui sont à Nyunzu et à Kabalo? Je ne pense pas. Parce que le peuple pygmée se retrouve un peu partout sur toute l'étendue de la République. Que vous alliez à Kabalo, à Kongolo, à Nyunzu, à Poto, à Kabambare, partout, dans la province orientale, dans la province du Bandundu, partout vous trouverez les pygmées. Alors si on trouve un pygmée pour résoudre un problème du Tanganyika dont il ne sait pas ni les tenants ni les aboutissants de ce conflit, je pense que nous n'allons pas résoudre le problème. C'est pourquoi il faut d'abord, s'il faut y avoir un forum, il faudra d'abord savoir avec qui. Est-ce que faut-il le faire avec l'actuel Nyumbaïza qui est le seigneur de guerre du côté de Kabalo Nyunzu? Faut-il le faire avec Tetset? Faut-il le faire avec Mampuya? Ou faut-il le faire avec qui? Et qu'est-ce que nous allons leur dire? Est-ce que nous irons tous avec le même langage? Parce que, comme je l'ai dit au début, nous avions eu des langages différents. Vous-même vous l'avez dit, il y a le ministre de l'Intérieur à l'époque, Son Excellence M. Mouchab qui est passé. Il y a eu le ministre provincial à l'époque, M. Kitungwa, qui est passé. Il y a eu la société civile. Donc, il y a eu tant de problèmes, tant de gens qui sont passés. Et qu'on en est là avec des problèmes récurrents. En même période, de juillet à ce jour, c'est pendant cette période-là que ce conflit ressurgit. Donc, nous devons voir. Si faut-il leur donner du travail, c'est bien. Est-ce que c'est du jour au lendemain que nous allons devoir trouver du travail pour eux. C'est pourquoi il faudra poser un diagnostic solide. Parce que j'ai entendu certains d'entre nous qui ont parlé du regroupement des pygmées dans des axes, là où ils peuvent être faire des villages à eux tout seuls, et attendre l'assistance des ONG internationales. Est-ce que ce serait des solutions durables? Plutôt, je pense que non. Moi, à mon humble avis, à mon entendement, c'est vrai qu'il faudra y aller par un dialogue, un forum qui va rassembler tout le monde, mais aussi il y a des problèmes de fond pour lesquels il faudra étudier. Parce que il faut se poser la question, c'est depuis quand que cela a commencé? Il a commencé aussi. Merci. Avec certains, s'il vous plaît, s'il vous plaît, certains d'entre eux qui ont été des militaires et qui aujourd'hui redevenus dans la
vie civile.
Dans le civil. Et aujourd'hui, tous ces gens-là qui véhiculent aussi le mauvais langage dans les communautés pygmées, on pourrait par exemple les réinsérer dans l'armée.
Merci Modeste Kabasi. Joseph Kongolo, il y a eu mort d'hommes, des dégâts matériels importants, plus de 3000 déplacés. Ne faudrait-il pas que la justice fasse aussi son travail?
Oui, vous avez raison qu'il y ait, que la justice fasse son travail, mais la nature du problème, je crois qu'aujourd'hui, la justice n'est pas une priorité. Parce que
il faut favoriser la paix en lieu et place de la justice.
La nature du problème. Nous ne sommes pas au niveau national, nous sommes à un niveau local, n'est-ce pas, un conflit entre deux communautés qui doivent partager le même espace. Je crois que aujourd'hui, il faut transposer le modèle de Barza, n'est-ce pas, qui a été fait à Manono, sur le lieu du conflit, et tenter d'affiner les méthodes en fonction des réalités du terrain. Ça, c'est une priorité. Deuxièmement, dans les solutions, nous avons le modèle Okapi. Vous savez que la radio Okapi a contribué à consolider la paix, voyez-vous. Je crois qu'aussi qu'il faut des mécanismes permanents de taille, capables, n'est-ce pas, de véhiculer des messages de convivialité entre les deux communautés localement, de manière permanente. Je crois qu'il y a des chaînes de radio locales dans lesquelles on peut initier des programmes réguliers, n'est-ce pas, pour transposer des messages de convivialité de manière permanente. Troisièmement, je crois que le gouverneur a donné d'autres mécanismes, d'autres solutions, mais je me pose moi une question. Le gouverneur, c'est l'autorité attitrée, n'est-ce pas, de cette province. Je crois que c'est bien de citer, comme il l'a dit, j'ai senti qu'il a la maîtrise du dossier, mais c'est une priorité parce qu'on ne peut pas se lancer dans le développement sans investir dans la paix. Et je crois que la paix devient une priorité dans une contrée où il y a des conflits entre deux communautés. Je crois qu'il n'est pas, pour lui, c'est pas de citer, n'est-ce pas, cet ensemble, n'est-ce pas, de solutions comme il a dit tout à l'heure.
Il faut les appliquer.
Il faut les appliquer. Il faut en faire une priorité du gouvernement pour pouvoir investir dans la paix et entrevoir, n'est-ce pas, le développement de cette province. Voyez-vous?
Alors, en guise de conclusion, Joseph Kongolo, parce que l'émission va déjà se terminer, il y a plusieurs entités qui prêtent main forte à ce processus de paix entre Bantou et Pygmé pour qu'il y ait des solutions durables. Il y a la MONUSCO, il y a les ONG, locales internationales, il y a le gouvernement provincial, le gouvernement central. À toutes ces entités, quel est le conseil que vous leur prodiguerez pour qu'il y ait une paix durable?
Il faut coordonner cet ensemble des efforts des différents acteurs étatique et non étatique. Il faut coordonner, il faut un comité de coordination qui arrive à faire un diagnostic sévère, comme Kabaz vient de le dire tout à l'heure. Il faut un diagnostic sévère pour faire des prescriptions qui conviennent, qui donnent la chair, n'est-ce pas, à ce programme, n'est-ce pas, de résolution des conflits et ce programme, n'est-ce pas, de convivialité entre les deux. Donc il faut coordonner tout ça et mener des enquêtes, n'est-ce pas, en profondeur sur le terrain, de manière à ressortir des éléments de réponse qui conviennent et de manière permanente et étendre dans l'ensemble, n'est-ce pas, du territoire où il y a ce conflit. Je crois que de cette manière, on peut investir dans la durabilité et dans la longueur du temps.
Merci, Joseph Kongolo. Monsieur le gouverneur Richard Ngoï Kitangala, vous pouvez très brièvement passer un message à la communauté, aux deux communautés Pygmé et Bantou qui vous suivent en ce moment, un message d'apaisement, un bref message d'apaisement en Swahili, s'il vous plaît.
Bon, je voulais d'abord dire que les barjas, les diagnostics, les forums, c'est bien beau, mais un ventre affamé n'a point d'oreille. Je vous ai dit que l'élément déclencheur, c'est très souvent la nourriture. Les chenilles, les rats, les animaux, ainsi de suite. Donc, nous devons beaucoup travailler sur les projets de développement. Nous avons déjà commencé, parce que nous sommes en train de prépositionner les outils aratoires dans ce milieu-là, à les semences améliorées. Et aussi, nous sommes en train d'envoyer des sensibilisateurs. Pour ce qui est du message, Naombatu Kwawandugu Ote, Watua Wandugetu Watua, na Babantu, donc Waluba, Watikilizani. Tangu zamani, tulikuwa tuko na ikala pamoja, tunasaidiana, hakukuwa uwaji. Tunapaswa kusikia ile raisi wetu tuko na tuambia ya kama, ule mwenye anapenda damu ya mkongomani kumwangika alainiwe. Na sisi atupende damu ya mkongomani hata moja kumwangika. Tutakuja kufanya makazi ya maendeleo, kulima mashamba, tutaleta majembe,
merci.
Tutaleta mbegu na vitu yote na kuwasaidia.
Merci monsieur le gouverneur Richard Ngoï Kitangala. Je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Tanganyika. Modeste Kabazi, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment vous entrevoyez la suite de la cohabitation entre ces deux communautés?
Moi, je voudrais plus exhorter l'autorité à pouvoir mettre tout en œuvre pour pouvoir pacifier tous les territoires qui sont atteints par ce conflit. Afin que nous puissions arriver à une cohabitation pacifique entre les deux communautés. Parce que la situation à l'heure qu'il est telle que tous les villages sont déserts par crainte d'être retrouvés le corps.
Merci Modeste Kabazi. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la société civile du Tanganyika. Guy Maté a réalisé cette émission. La mise en onde était assurée par Jean-Noël Mofondo. Supervision Julien Nyamwenyi. Présentation et coordination Alain Hirung Mouchige. Merci de votre attention. Au revoir.